et spécialement dans le secteur de Saint-Apollinaire pour participer aux recherches. On va rejoindre à l'instant Paul Laurier, ex-policier de la Sûreté du Québec à qui on a parlé hier. Monsieur Laurier, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Laurier, on s'est parlé il y a près de 24 heures maintenant. Donc, 24 heures s'est écoulée. On n'a toujours pas de nouvelles des deux jeunes filles et du père. Lorsqu'on est policier impliqué dans une enquête comme ça, puis qu'on voit le temps qui file, j'imagine que ça devient de plus en plus inquiétant, là.
Ben, c'est inquiétant, mais c'est toujours le but visé est toujours de trouver l'indice, de trouver, comme je disais hier, on retourne toutes les roches, on regarde tous les indices. On a déployé beaucoup, beaucoup de moyens, l'hélicoptère, maître chien, on a des bénévoles. Recherche systématique sur le terrain, on quadrille on a quadrillé le terrain, on s'assure que chaque endroit visité va être fouillé correctement. Mais c'est sûr que c'est inquiétant parce que comme policier, on est aussi souvent parents d'enfants, donc ça nous touche doublement.
Ben c'est ça que j'allais dire, Monsieur Laurier. Je trouve ça bien que vous apportiez ce point-là parce que on dit souvent que les policiers développent une carapace au fil du temps. Faut pas être trop impliqué émotionnellement dans nos enquêtes. Puis on peut comprendre pourquoi là, parce que sinon on vient fou avant la retraite. Mais quand même, quand il est question d'enfants comme ça, j'imagine que ça doit venir nous chercher au plus profond de notre cœur quand même là.
Ben ça vient chercher. Tous les crimes sont atroces, particulièrement avec des enfants. On le sait, c'est des victimes. C'est des victimes sans défense. On va voir souvent. Moi, j'ai pas travaillé directement au crime contre la personne, mais j'ai travaillé au cyber quand on voyait des abus sexuels contre enfants. On se fait une carapace, mais c'est sûr qu'à la longue, ça devient lourd. Et on se dit toujours la priorité. On va trouver la personne. On va retrouver les enfants, puis on va retrouver la personne qui a fait ça, puis on va traduire cette personne-là devant la justice. C'est le but de l'opération. Mais là, c'est vraiment la fonction première, c'est de retrouver les enfants. Tous les indices comptent, tous les faits sont notés, amenés dans un journal de bord. Tous les enquêtes de faits vont être menées. Il n'y a pas de problème de temps, de surtemps ou de ressources humaines. On met toutes les ressources disponibles. Il faut trouver chaque indice, l'exploiter, voir qu'est-ce qui sort de ça. Parfois, ça va nous amener à un autre indice qui va nous amener à la découverte des enfants.
Et dites-moi, M. Laurier, on l'a abordé un petit peu avec Pascal il y a quelques minutes, mais c'est un point auquel je n'avais pas pensé, mais c'est quand même possible que présentement, Martin Carpentier écoute la radio, écoute la télé ou se tienne au courant de ce qui se passe présentement avec l'alerte Amber, puis il est peut-être en train de se demander quoi faire. Par rapport au message qu'on divulgue à la population et dans les médias lorsqu'on est policier puis qu'on sait qu'il y a une possibilité que le ravisseur ou la personne qui est concernée nous écoute, à quoi il faut faire attention exactement?
Dans le fond, c'est qu'il faut envoyer un message, je vous dirais, positif dans le sens où il faut que cette personne-là, si elle agit sur le coup d'émotion, si elle a... Elle a des problèmes de santé mentale, ben il y a des gens qui peuvent la venir en aide. L'idée, c'est de ramener tout le monde en vie, c'est ça l'idée. Les policiers sont là, ont des moyens, ont beaucoup de moyens pour retrouver dans le cas de disparition, mais les policiers sont pas là pour juger, sont là pour ramener les enfants en vie, ramener le père en vie. La vie du père est aussi importante que la vie des enfants, pour que tout le monde soit en vie puis qu'il y ait une fin heureuse. Fait qu'il faut que cette personne-là, ben se résonne. Le cri du cœur de la mère, l'appel du premier ministre, l'appel des médias, c'est important, des alertes en vert. On a resignalé une deuxième fois. Ben, il faut que les gens collaborent. Et comme le monsieur parlait tantôt, c'est important, si vous n'êtes pas sûr, si vous avez des... appelez la police, faites pas le justice, faut pas que comme citoyen, on s'implique puis on fasse... Parce que cette personne-là, ben, on s'entend... ne dort pas, stressé, va prendre des mauvaises décisions. C'est une cascade de mauvaises décisions qui peuvent se prendre. Donc, les policiers sont habitués de négocier avec ce type de personnes-là en état de crise. Et puis, on va l'approcher, puis on va s'assurer de la sécurité, et surtout de la sécurité des enfants. C'est ce qui est primordial, c'est de ramener tout le monde en vie.
Monsieur Laurier, on comprend que dans les dernières heures, là, les recherches se sont déplacées. On parle de cris qui auraient été entendus dans la forêt par des résidents du secteur. Comment les policiers traitent des informations comme celle-là? Parce que ce que l'on se rend compte, c'est qu'assez rapidement, ils se sont déplacés dans ce secteur-là. Est-ce qu'il arrive des fois où vous remettez un peu en cause la crédibilité de ces informations-là avant de vous y déplacer?
Ben en fait, il y a des c'est un périmètre, hein, l'accident à Rivière avant que qu'on appelle le connecting the dot, en français, comment on dirait ça, de
rejoindre les points,
de rejoindre les points de chaque indice nous amène à aller plus loin. Donc, Il n'y a rien qui n'est pas pris au sérieux. Chaque indice que je vous dis dans ce type d'enquête-là, tout est vérifié. Même si on a des doutes, on n'est pas là pour douter de l'information, on est là pour valider l'information. Ça prend, et les ressources ne sont pas problématiques. Dans ce type d'enquête-là, tous les ressources sont déployées. Il y a des équipes partout au Québec, la Sûreté du Québec est capable de déployer rapidement des équipes terrain, des équipes de recherche, des équipes d'enquêteurs. Il n'y a aucun problème là-dessus. L'idée, c'est de valider l'information. C'est pas de, je vous dirais, de oui, il y a des validations, oui, il y a des choses qui sont impossibles. Oui, des fois, il y a des gens, il y a des voyants qui appellent tout ça, mais
ben oui.
si on donne une information, on va la valider, on va la vérifier. Même si on sait qu'à la fin, la finalité peut être, l'information peut être fausse, mais on prend pas de risque, on prend pas de chance.
Monsieur Laurier, dans le cas qui nous concerne présentement, on n'a pas eu d'indices dans les dernières 24 heures ou même plus depuis le déclenchement de l'alerte Amber de gens qui ont dit qu'ils avaient aperçu le père et ses deux petites filles. On n'a pas encore ça présentement comme indice. Je sais que dans d'autres cas et dans d'autres histoires, on avait une espèce d'espoir auquel on s'accrochait parce qu'on était capable de suivre la trace des personnes. Une telle personne a aperçu le véhicule à tel endroit. Bon, là, maintenant, on n'a rien qui nous dit que ces deux jeunes-là et ainsi que leur père sont encore en vie au moment où on se parle. Est-ce que ça teinte un petit peu l'enquête lorsqu'on se dit que peut-être que ce sont des cadavres, malheureusement, qu'on va retrouver?
Il n'y a rien qui dit le contraire non plus. Et puis, c'est faux de prétendre dans le sens où on ne sait pas. La police a des informations qui ne sont pas divulguées. Il y a des gens qui communiquent. On va demander de garder des informations. Oui, il y a des gens qui parlent aux médias. Oui, il y a des gens qui vont donner des informations publiquement via les médias sociaux, mais les équipes d'enquête ont toujours des informations qui sont gardées secrètes, qui sont gardées à l'intérieur de l'enquête, qui sont primordiales sur des scènes de crime où on va ramasser un paquet d'informations, de renseignements. Donc, c'est faux. À ce temps-ci, c'est faux de prétendre qu'on ne sait pas qu'ils sont en vie. On a peut-être des indices qui le sont, mais on ne le divulguera pas pour des raisons d'enquête.
Fait qu'on peut, OK, donc on le sait pas, mais de par vos propos, je peux comprendre que peut-être qu'il y a des affaires qu'on sait pas non plus, là.
Non, c'est certainement, l'enquête est pas publique, là. L'équipe d'enquête est assez serré, chef d'équipe, les enquêteurs, l'enquêteur principal, les affiants, il y a des gens qui écrivent des mandats, il y a plein de techniques d'enquête qui sont déployées présentement qui ne sont pas visibles. Parce que les équipes de recherche entendent des choses, les policiers entendent des choses, les patrouilleurs entendent des choses, c'est ramené à l'équipe d'enquête, c'est journalisé, et je vous dis, chaque point est vraiment, chaque pierre est retournée, il n'y a pas de chance à prendre, et il y a des informations qu'on ne divulguera pas, c'est certain.
Monsieur Laurier, avant de vous quitter, j'essaie de me rapporter un petit peu à l'histoire de Cédrica Provencher. Puis je me souviens que les premières 24 heures, 48 heures, la première semaine, les premières semaines, en fait, il y avait du temps supplémentaire du côté des policiers. Toutes les ressources étaient déployées. Et à un moment donné, bien, au fil du temps, on commençait à abandonner certaines ressources ou du moins à ralentir un petit peu le rythme parce qu'on peut pas soutenir ça 24 sur 24 pendant 3 ans non plus, là. Et à un moment donné, on sentait que, bon, l'enquête en tant que telle ne s'essoufflait pas, mais les effectifs sur le terrain et l'effort déployé sur le terrain forcément s'essoufflait parce qu'on n'a pas les moyens de toute façon d'avoir des centaines de policiers 24 sur 24 juste sur ce cas-là. Après combien de temps on commence à lever un petit peu la pédale sur un type d'enquête de disparition comme ça s'il n'y a pas de développement majeur?
Je vous dirais que on est encore très, très tôt dans l'enquête. C'est 24-7 sur 365. Les gestionnaires ne se posent pas cette question-là présentement. On va diminuer, si on parle d'une année, deux années, trois années, c'est sûr que si on a quadrillé, il n'y a pas d'indice, on a complètement fouillé, vidé des places, on ne va pas recommencer pour recommencer. Je prends l'exemple, il y avait un jeune enfant qui était disparu à Montréal-Nord l'hiver, donc on pense qu'il est allé dans l'eau, on a quadrillé. Je vous dis, on est très, très, très systématique, hein, c'est pas... Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tout est fait systématiquement. Tout est journalisé. Quand les patrons vont prendre la décision avec les enquêteurs de dire, ben, à un moment donné, parce qu'il n'y a plus d'indices qui rentrent, parce qu'il n'y a plus d'informations qui rentrent, on va réactiver les médias, on va réactiver les médias sociaux, on va recontacter des témoins pour être sûr, on peut passer des polygraphes, on peut faire des revues cognitives. Il y a plein de techniques d'enquête qui sont à ce type d'enquête-là qui sont déployées. Et je vous dis, le terme français, money is no object. Mm-hmm. Et puis, il n'y a aucune notion de temps. Et c'est les gestionnaires qui vont à un moment donné décider de lever la pédale, mais pour l'instant, on est à fond. Tout ce qu'on a comme ressources disponibles est sur cette enquête-là.
Et juste une dernière question avant de vous quitter, M. Laurier. Vous êtes quand même un ex-policier de la Sûreté du Québec. À quel point vous restez impliqué dans ce type d'histoire-là quand ça arrive dans les médias?
Ben nous, c'est-à-dire que moi, je travaille, vous allez voir plus tard, là, j'ai été convoqué par au niveau de la commission sur les actes sexuels contre les mineurs. Ouais. On reste toujours impliqué. Je travaille dans une firme d'enquête, j'ai travaillé au niveau des enfants en feu, des filles qui sont en feu, qui sont dans les mains des professionnels. Fait que, oui, il y a toujours un attachement, entre guillemets, dans le sens que on reste toujours branché sur si on peut aider, comme parce qu'on est privilégié au niveau de la retraite, on reste toujours attaché puis à essayer de servir le public. Je vous dirais que moi, dans mon cas, moi, ça a toujours été depuis 2014 que je suis parti de la Sûreté du Québec, mais je reste quand même comme un citoyen. Mm-hmm. Et avec la formation, ben, j'essaie d'en faire profiter le plus possible.
Ben exactement, vous êtes un citoyen, mais avec des qualifications que nous, on n'a pas, mettons, fait que c'est toujours très, très utile. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Laurier. Merci, bonne journée. Paul Laurier est un ex-policier de la Sûreté du Québec. Je dis ça parce qu'il y a plusieurs policiers, en fait, qui ont quitté le corps de police pour lequel ils travaillaient. Mais quand arrive une situation comme celle-là, ça doit être impossible de rester chez toi puis regarder ça d'un œil ordinaire comme n'importe quel citoyen. Tu sais, tu connais les dessous des enquêtes, tu sais comment ça fonctionne, tu sais le sentiment qui habite les policiers sur le terrain présentement.
Certains veulent peut-être se porter comme bénévoles.
Absolument, t'as raison. Puis ils ont des compétences, des qualifications que nous, que toi puis moi, on n'a pas parce qu'on n'a pas fait cette expérience-là, puis on n'a pas cette formation-là. Fait que c'est certain que c'est vraiment très, très utile là, d'avoir d'ex-policiers qui veulent se porter bénévoles comme ça. Écoutez, j'espère vraiment qu'on va avoir des nouvelles d'ici 18 heures. Le temps file. Ça fait maintenant, ils ont déclenché l'alerte Amber exactement à 15h30 hier, donc presque un petit peu plus de 24 heures.
Peu avant, vers 15 heures
sur le web. T'as raison.
Ça fait plus de 24 heures là, maintenant là, ouais. que ça a été déclenché et ça fait plus de 36 heures. Là, ça va faire ce soir, ça va faire deux jours que l'on est sans nouvelles
des fillettes.
À 20h30, parce que c'est le dernier moment où elles ont été vues là, du côté de Lévi, là, à un dépanneur où elles devaient aller. Mais après ça, on n'a eu aucune autre nouvelle d'elles. Donc là, il y a de sérieuses questions qui se posent. Depuis le début, là, ça reste extrêmement mystérieux comme histoire. Puis, je ne sais pas, peut-être avant d'aller à la pause, on peut peut-être réécouter justement le message qui a été publié par la Sûreté du Québec un peu plus tôt aujourd'hui. Il s'agit de Cathy Gingras, qui est la conjointe actuelle de Martin Carpentier, qui lui livrait un message poignant. Donc, je vous invite à écouter ça. Si vous ne l'avez pas déjà entendu, sinon, je vous invite à réécouter.
Martin, on s'inquiète. On n'a pas eu de nouvelles de toi depuis l'accident. On se demande si t'es correct. Les filles, Romy, Nora, on veut savoir s'ils vont bien. Si toi, tu vas bien. Donne-nous des nouvelles, fais-nous un signe, appelle tes parents, n'importe quoi. L'important, c'est que vous autres, vous alliez bien. Le reste, on s'en fout du reste. On veut juste savoir que vous êtes corrects.
Étoile 93.3, pour signaler un problème sur la route.